extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
La composition d'un credo Jorai m'a demandé un travail considérable. Il s'agissait dans mon cas de condenser l'objet de la foi en un texte intelligible et mémorisable. Comme une église que l'on construit progressivement à partir de l'autel, j'ai composé ce credo à partir du fait de la résurrection. Les difficultés de mémorisation et surtout les inexactitudes d'interprétation me le feront probablement encore corriger. Eh bien, chers auditeurs, l'homme qui se cache derrière ces mots retranscrits par Madame Françoise Buzelin dans un ouvrage « La prière missionnaire dans la tradition des MEP » paru dans la collection de cette maison n'est autre que le père Jacques Dourne, prêtre missionnaire de cette société, envoyé au Vietnam entre 1947 et 1968. D'observateur attentif aux us et coutumes de l'ethnie Jorai présente dans les hauts plateaux du Vietnam, le père Jacques Dourne va devenir un ethnologue et anthropologue réputé. Nous avons le plaisir de découvrir sa vie, mais aussi et surtout la façon dont l'Institut de Recherche France-Asie a structuré le fonds d'archives qui lui est consacré. Nous recevons pour cela sa directrice, Madame Marie Alpé-Dumoulin. Bonjour, Marie Alpé-Dumoulin.
Bonjour, Duarte.
Alors, Marie Alpé, avec vous, nous partons sans plus tarder en Asie pour les nouvelles des églises d'Asie. Ces nouvelles sont tirées donc de l'Agence des missions étrangères de Paris, Église d'Asie, avec Louis Decret. Bonjour, Louis.
Bonjour, Duarte.
Alors Louis, c'est Manille qui occupe le premier titre de l'actualité puisque l'Église philippine appelle à réformer le système judiciaire du pays.
Exactement, plusieurs responsables politiques philippins, catholiques, ont appelé à une réforme de la justice et du système pénal après la prise en otage le 9 octobre dernier à Manille de Leila de Lima, avocate, ancienne sénatrice et opposante à l'ex-président Rodrigo Duterte. L'événement a eu lieu à Camp Crame, le siège de la police nationale philippine, où l'ancienne sénatrice était incarcérée depuis 5 ans. 3 détenus auraient vu en elle une couverture idéale pour tenter de s'évader, avant d'être finalement abattue par la police. Leila de Lima, présidente de la Commission philippine des droits de l'homme, puis ministre de la Justice, a siégé au Sénat sous la présidence de Duterte à partir de 2016 jusqu'à son arrestation. Elle a été arrêtée en 2017 après avoir été accusée de liens avec les trafiquants de drogue. Monseigneur Pablo Virgilio David, président de la conférence épiscopale philippine, a condamné la prise d'otage en affirmant que le système judiciaire du pays est catastrophique. Citation « Que peut-on faire quand la justice est biaisée mais que la nation est aveugle » a-t-il demandé dans un communiqué. Quand les véritables criminels s'en sortent sans problème et que ceux qui veulent les poursuivre sont détenus en prison, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionne terriblement mal dans notre système judiciaire, a-t-il conclu.
Alors que les évêques asiatiques soulignent la mission d'évangélisation et la riche diversité des églises en Asie.
C'est cela durant la messe d'ouverture de la conférence générale de la Fédération des conférences épiscopales d'Asie qui a eu lieu le 12 octobre à Bangkok afin de marquer les 50 ans de l'organisation. Les évêques asiatiques ont appelé au renouveau de l'évangélisation dans la région. Le cardinal Charles Mangbo a ainsi déclaré « Alors que la marche du troisième millénaire est entamée, l'histoire nous fait signe et l'esprit agit. Ensemble, nous disons, l'Église asiatique en avant, c'est le moment pour l'Asie. » Fin de citation. De son côté, le pape François, dans un message adressé à la conférence générale de la FABC, a également évoqué la diversité culturelle des églises en Asie. Il a demandé aux conférences épiscopales asiatiques de se rencontrer régulièrement. Citation. Il est important que les conférences régionales se rencontrent avec régularité, car c'est ainsi que l'Église est formée et qu'elle se renforce en chemin. Et la question fondamentale est, qu'est-ce que l'Esprit dit aux Églises en Asie? Et c'est à cela que vous devez répondre. Fin de citation. Dans son message, il a également souligné le rôle des laïcs dans l'Église en Asie et l'importance des Églises locales.
Séoul, maintenant, puisque l'Église coréenne lance une campagne pro-vie contre le déclin démographique.
Le pays subit un déclin démographique alarmant avec un faible taux de natalité et une population vieillissante. L'archidiocèse de Séoul a lancé une nouvelle campagne pro-vie, notamment afin de soutenir les femmes enceintes sud-coréennes et de lutter contre l'avortement, alors que le pays fait face à une crise démographique liée à un taux de natalité particulièrement bas. La campagne implique plusieurs groupes de soutien qui s'opposent à l'avortement et qui défendent la protection des enfants à naître, selon une information publiée le 10 octobre. Le 28 septembre, la cathédrale de Myeongdong à Séoul a lancé la campagne 40 jours de prière pour la vie, un mouvement organisé deux fois par an à travers le monde. Le père Yong-woo Park, secrétaire général de la commission de Séoul, explique que cette campagne a contribué à changer l'état d'esprit de beaucoup de Sud-Coréens sur l'avortement. Citation : Parfois, on a l'impression que la prière est sans effet, mais il y a un pouvoir qui agit, et la prière ne montre pas d'emblée. Beaucoup de gens ont changé d'opinion après avoir suivi ces 40 jours de prière, assure-t-il. Début mai 2022, une messe spéciale a aussi été organisée pour les volontaires, apportant une aide psychologique et physique aux parents célibataires. À cette occasion, Mgr Pierre Chung Sun-taek, président de la Commission pour la vie, a salué le rôle et l'engagement précieux des volontaires.
Merci, Louis Ducret. Voilà plusieurs années à présent que l'Institut de recherche France-Asie s'emploie à conserver et à promouvoir le patrimoine unique des missions étrangères de Paris et de ses prêtres, sentinelles de la mission depuis près de 350 ans, à l'image du père Jacques Dourne, présent au Vietnam entre 1947 et 1968. Marie-Alpée Dumoulin nous présente la vie unique de ce missionnaire ainsi que les méthodes de travail de son institut. Alors Marie-Alpée, peut-être pouvons-nous revenir très simplement sur le parcours qui vous a mené d'abord à diriger cet institut de recherche France-Asie. Pouvez-vous nous le présenter et nous expliquer la vision que vous avez pour cet institut ?
Oui, tout à fait. Alors l'Institut de recherche France-Asie, qu'on abrège en IRFA, est un service des missions étrangères de Paris qui a été créé en 2019 pour garantir la bonne conservation et surtout la valorisation auprès du monde de la recherche et du grand public du patrimoine construit et accumulé par les missionnaires des missions étrangères de Paris depuis la création de l'institution à la fin du XVIIe siècle. Notre travail à l'IRFA est vraiment la poursuite du travail qui a toujours été fait au MEP pour sauvegarder ce patrimoine. C'est important de le notifier. Depuis la fin du XVIIe, il y a un archiviste au MEP pour assurer la bonne conservation de ces documents uniques. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, que nous avons un patrimoine ininterrompu pour garder la connaissance et la mémoire de toutes ces missions en Asie. Alors, pour ma part, je suis spécialiste de la conservation du patrimoine écrit. J'ai fait des études d'histoire et de conservation à l'École des Chartes. Et dans ce cadre-là, j'ai pu faire ma thèse sur un missionnaire des MEP, qui était le premier évêque du Sichuan et du Yunnan, donc en Chine, au début du XVIIIe siècle. J'ai donc toujours eu une grande appétence pour l'histoire missionnaire en tant qu'histoire d'échange interculturel. Et puis, j'ai donc eu la joie de prendre ce poste à l'Institut de recherche France-Asie pour créer l'Institut et le développer depuis 3 ans.
Alors, ce patrimoine, il est de quelle nature ? Ce sont des images, des textes ? C'est la mémoire des martyrs aussi ?
On a essentiellement un patrimoine documentaire, si on entend document au sens large, c'est-à-dire donc à la fois des archives écrites, donc sur papier et aujourd'hui au format numérique, puisque notre vocation est aussi de collecter les documents produits aujourd'hui en mission, pour qu'il n'y ait pas de rupture historique. Mais nous avons beaucoup de documents iconographiques, effectivement, des photographies, des gravures avant cela, un fonds audiovisuel relativement important, des cartes, et puis aussi un patrimoine d'imprimés, puisque les missions étrangères, partout où elles se sont implantées, ont toujours tenu à publier, enfin traduire, imprimer, publier des ouvrages en tant que support de la mission.
Donc ce sont les éléments qui forgent cette mémoire vivante des missionnaires qui partent encore aujourd'hui. Marie-Alpée Dumoulin, vous avez travaillé plus particulièrement avec l'Institut de recherche France-Asie sur la figure du père Jacques Dourne. Vous le décrivez comme un passionné de l'ethnie Jorai, une ethnie donc des hauts plateaux du Vietnam. Il a consacré sa vie à cette ethnie. Est-ce qu'on peut retracer sa vie et ça amène une question. Comment ce natif du Nord-Pas-de-Calais arrive-t-il à développer cette affinité si poussée avec une ethnie très, très lointaine finalement de son lieu de naissance ?
Effectivement. Pourquoi on a choisi de travailler beaucoup sur Dourne ? Parce que tous les missionnaires ont été ethnologues à leur façon, puisqu'ils ont dû se documenter sur les populations auprès desquelles ils ont vécu. Mais en fait, Jacques Dourne a poussé ça on va dire, beaucoup plus loin que d'autres par goût et par qualité intellectuelle. Et il est devenu vraiment anthropologue. Alors Jacques Dourne a vécu, il est né en 1922, donc nous fêtons cette année les 100 ans de sa naissance. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur lui cette année, 2022. Et il est décédé en 1993. Alors en soi, il a au départ un parcours assez classique de missionnaire MEP, si je puis dire. Il fait son séminaire à Versailles et il rentre aux missions étrangères alors qu'il est déjà diacre. Et alors ça, là, on est juste après la guerre, on est en 1945, donc il est très jeune. Il rentre au MEP, il reçoit quasiment pas de formation spécifique à l'Asie, mais comme tous les MEP de sa génération. Et il arrive au Vietnam, c'est la mission pour laquelle il est assigné en 1946. Et là, son évêque lui dit, vous avez le choix, vous pouvez soit travailler dans une école de français du côté de Saïgon, soit je vais vous emmener auprès des ethnies qu'on appelait à l'époque les Moi, ce qui signifiait en vietnamien les sauvages. Donc c'était un terme qui était encore utilisé, qui n'est plus du tout aujourd'hui à cause de son caractère péjoratif. C'était donc les sauvages par opposition aux vietnamiens. Et donc soit vous allez là-bas, mais en revanche ça va être un peu plus du défrichage. Et donc Dourne choisit immédiatement cette mission-là.
Parce que cet esprit d'aventure, il l'a en lui dès
de facto,
le départ.
Il le dit lui-même. En fait, il avait hésité entre deux carrières, si je puis dire. C'était l'école navale ou les missions étrangères de Paris. Parce qu'il avait, il disait qu'il étouffait dans son milieu social bourgeois. Enfin, ça c'est ses termes, et qu'il avait vraiment besoin d'aventure, d'exploration et d'altérité. Et donc c'est pour ça qu'il est très content de se retrouver chez ses ethnies. Alors au départ, il est chez une ethnie qu'on appelle les Stré. Donc il y a plusieurs parmi les populations montagnardes des hauts plateaux du Vietnam, dans la région de Kontum, entre Kontum et Dalat. Il y a plusieurs ethnies et il y en a une qui s'appelle les Stré, chez qui il va rester pendant 7 ans. Et là, sa mission est très difficile. Il est très jeune, il est extrêmement seul. Les moyens de communication sont assez lacunaires. Son évêque le visite, je dirais, une ou deux fois par an, mais pas davantage. Et il trouve ça très dur parce qu'il essaye de convertir les gens, il en convertit certains, mais très vite il se rend compte qu'il y a une forme de syncrétisme ou que les nouveaux convertis retournent dans leur rituel animiste et ça le désespère un peu. Et comme lui, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, assez dur,
il y a des frictions.
Il trouve ça, il y a rapidement des frictions. Voilà. Et en fait, il y a un premier conflit avec sa hiérarchie qui augure d'autres conflits. Sa hiérarchie, avec qui pourtant il s'entendait bien, mais il y a un conflit qui tourne donc en 1953 sur une question très missionnaire, c'est-à-dire la traduction du nom de Dieu. Donc il faut savoir que pour ces ethnies du centre Vietnam n'ont pas encore de dictionnaire avec le français. Et donc les missionnaires qui arrivent dans ces années-là, hein, 1950, doivent tout construire, des lexiques, doivent traduire tous les supports de la vie liturgique dans les langues locales. Et Dourne se met en tête de choisir un mot en particulier pour désigner Dieu dans cette langue, parce qu'il a vu ce mot quelque part et il s'est dit, ah, c'est génial, ce mot désigne un Dieu unique, ça ira très bien pour désigner le Dieu des catholiques. Mais visiblement, son évêque, qui a aussi fait ses études de son côté, n'est pas d'accord et Dourne ne veut pas obéir à lui, céder. Et donc là, il y a un premier conflit. Et à ce moment-là, il part, il a besoin de prendre du recul. Il part faire un pèlerinage sur les traces de Charles de Foucault, ce qui a été très important pour la suite de sa mission. Après, il revient, et là, à ce moment-là, il est missionnaire chez les Djoraï, un peu plus loin, dans le diocèse de Kontum. Et à ce moment-là, il y a un vrai basculement. Il va changer totalement de méthode missionnaire. Il va décider d'avoir une méthode beaucoup moins, on va dire, active, mais plutôt de s'insérer, de mieux connaître la culture des missionnés pour petit à petit christianiser cette culture. Et ça, c'est ça, cette démarche-là qui va faire de lui véritablement un anthropologue.
Parce que dans sa première mission, donc celle le poste de Callao, dans lequel il arrive à 25 ans, donc très, très jeune, il avait déjà développé cette logique d'observation ou c'est l'intensité qui change, notamment l'ethno-potinisation. Est-ce qu'il l'avait déjà
Effectivement, il avait déjà ça en germe. Bah, déjà, tout simplement parce que tous les missionnaires MEP, on leur demande toujours en partant de s'intégrer aux cultures locales. Et voyez, dès 1947, c'est la première année de sa mission, il écrit à son frère « Je suis venu ici pour vivre de la vie des Moi ». Et puis il dit « Mon premier but, c'est de mieux connaître les Moi pour juger de leur génie propre ». ce que je compte faire en étudiant de près la langue et la tradition. Donc ça, de toute façon, comme tout permet qui arrive dans un nouveau milieu, il faut s'emparer de la langue, il faut s'emparer de la culture pour pouvoir tout simplement s'adresser aux gens. Mais il le faisait dans un but un peu trop activement missionnaire, et il voulait avoir des résultats rapidement. Ce qui change après son séjour chez Charles de Foucault, c'est justement que là, il se dit, mais en fait, j'ai rien compris. Et surtout, ce que je n'ai pas compris, c'est que je suis arrivée chez des gens qui avaient une religion. Il le dit lui-même. J'ai oblitéré le fait qu'ils avaient une religion parce que je regardais d'un peu loin tous leurs rituels. Et en les observant davantage, je me rends compte que, justement, toute leur vie est un système harmonieux où il y a des rites partout. Et même les relations entre l'homme et la nature sont empreintes de rites qu'il faut que je connaisse. Parce que si je veux christianiser cette culture, il faut que j'en sois le spécialiste, et que j'ai même de l'estime pour cette culture, pour leur religion. Si j'ai pas cette estime, si j'ai pas envie de le vivre avec eux, je n'y arriverai jamais.
Et donc c'est une conversion radicale, personnelle. Elle va augurer des changements dans l'approche de la mission, vous le dites. Nous allons développer ça en poursuivant notre échange. Merci en tout cas Marie-Alpé Dumoulin, directrice donc de l'Institut de Recherche France-Asie. Nous écoutons avec vous Loi Me Nam Nhieu, un chant vietnamien en l'honneur de la Vierge Marie.
Trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi.
Nous venons d'entendre Loi Me Nam Nhieu, un chant catholique vietnamien dédié à la Vierge Marie, et nous retrouvons Madame Marie-Alpé Dumoulin, directrice de l'Institut de Recherche France-Asie des Missions étrangères de Paris. Nous découvrons donc avec elle les méthodes de cet institut au travers de la vie du père Jacques Dourne, missionnaire au Vietnam entre 1947 et 1968. Alors, Marie-Alpé, nous avons évoqué ensemble les premiers pas missionnaires du père Jacques Dourne, ces pas qui le mènent donc à la rupture de 1953, ce conflit autour de la traduction du mot Dieu auprès des ethnies auxquelles il dédie sa vie. Le père, en tout cas dans la première partie donc, de sa mission, a développé cette tradition ethnographique héritée de ses prédécesseurs. Il l'a même développée, vous en avez parlé. Une démarche scientifique qu'il va développer donc, dans la suite de sa vie, qu'il va ramener en France, qu'il va poursuivre. Quelle est cette démarche, Marie-Alpé, et surtout, qui est en fait le scientifique Jacques Dourne?
Oui. Pour illustrer ça, je pense qu'il faut revenir quelques instants sur les définitions respectives de l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie, parce que Jacques Dourne passe de l'un à l'autre avec beaucoup d'habileté. Donc là, je vais reprendre un petit peu des définitions telles que les a données Claude Lévi-Strauss. L'ethnographie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire documenter l'organisation d'une société, donc c'est vraiment faire des relevés, etc. L'ethnologie, c'est à partir de cette documentation établir les grandes lignes générales de la structure d'une société. Et puis l'anthropologie, c'est davantage comparatif, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'ethnologie comparative entre différentes ethnies, justement, sur des thématiques précises. Et Jacques Dourne, il a fait ça, il était à la fois ethnographe tout le long de sa vie, il a récolté une documentation considérable. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas le montrer là à nos auditeurs, mais il était en même temps, il avait un très grand sens artistique, donc on a conservé de lui beaucoup de dessins magnifiques, même de compositions, de textes, ses carnets dans lesquels il écrit très bien, il excellait aussi dans l'art de la photographie. Donc voilà, ça, il a recueilli une immense documentation ethnographique à tel point que Condominas, donc un grand anthropologue qu'il a bien connu au Vietnam, a dit de lui qu'il n'avait jamais vu d'autres ethnologues recueillir une telle documentation dans l'espace d'une vie. C'est un bourreau de travail, Jacques Dourne. Et puis, il a beaucoup analysé ce qu'il avait pu observer donc, en tant qu'ethnologue. Et puis, à la fin de sa vie, il a fait des études comparatives avec d'autres populations d'Asie du Sud-Est. Et donc, cela le positionne en anthropologue. Alors, qu'est-ce qu'il fait concrètement chez les Jorai pour mieux connaître leur culture ? Il comprend, et ça c'est vraiment son grand apport et c'est un côté très moderne, il s'empare d'une étude de l'écologie de Jorai. En fait, il comprend, alors qu'à son époque c'est pas encore quelque chose d'évident, que si les Jorai sont ainsi structurés, si leur cosmogonie est ainsi faite, c'est que il n'y a pas de différence chez eux entre le monde des hommes et celui des autres espèces animées ou non animées, c'est-à-dire que la nature et l'homme ne font qu'un tout, et que il étudie la botanique. Mais s'il étudie la botanique, c'est pas juste pour dresser un catalogue de plantes, c'est pour étudier un milieu et les relations des êtres au milieu qui est le leur. Ça, c'est vraiment son grand apport. Du coup, il a développé tout un propos sur l'écologie de Jorai. Parce que qu'est-ce qu'ils observent ? C'est que telle plante, elle aura un usage alimentaire, un usage médical. Elle aura aussi un usage littéraire, parce qu'elle viendra symboliser certaines choses dans la littérature orale qui est très importante pour la population de Jorai. Elle aura un usage magique et religieux, etc. Du coup, il va décrire, par exemple, tous les esprits qui vont habiter les arbres des forêts des Jorai, le banyan, qui est particulièrement sacré, parce que c'est la résidence des esprits supérieurs, et ainsi de suite. Donc ça fascine encore aujourd'hui les anthropologues, parce que seul quelqu'un qui a pu habiter longtemps et se pénétrer de ses usages peut comprendre tout ça.
Et donc il y a une différence en fait avec les ethnologues universitaires, puisque lui...
Oui, alors ça, Jacques Dourne s'en glorifie beaucoup. Il dit jamais un ethnologue qui serait arrivé un an pour faire une petite étude de terrain avec son petit magnétophone ne serait arrivé à ça. Moi, la grande différence, c'est que j'étais partie pour vivre toute ma vie avec eux. Et donc j'ai pu faire un travail beaucoup plus approfondi, ce qui est vrai.
Et alors ce travail, donc, il va le poursuivre, on l'a dit, en France. Sa mort interviendra en 1993. Marie-Hélène Pellet Dumoulin, est-ce qu'il y a une postérité à Jacques Dourne ? Est-ce qu'il a pu céder quelque chose qui a été repris par la science ?
Alors déjà, il a énormément écrit. Donc juste pour revenir sur la fin de sa biographie, en 1967-68, il y a un nouveau conflit avec son évêque. Mais c'est ce conflit naît surtout parce qu'en fait, Jacques Dourne se sent de plus en plus appelé à continuer ses recherches dans le cadre universitaire. Et du coup, il demande une disponibilité. Il rentre en France et là, il soutiendra une thèse au CNRS. Toujours sur les Jorai. Et après, pendant toute sa vie, il continuera à publier. Il va beaucoup travailler sur l'oralité, justement, tout ce qui est la littérature orale, qui est un nouveau terrain de recherche pour les scientifiques français. Et donc déjà, ce qu'il nous a laissé, c'est toute cette production écrite, qui est aussi une production théologique, parce que forcément, il s'est posé la question de comment transmettre le message chrétien dans ce genre de situation. Sa production, on est loin d'en avoir fait le tour, puisque nous conservons à l'IRFA beaucoup de manuscrits non publiés, d'articles, par exemple. Et puis ensuite, sa postérité aujourd'hui, justement, elle consiste à étudier comment il a ouvert des nouveaux terrains de recherche pour les anthropologues. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'a pu construire Jacques Dourne et qui m'ont été livrés par une professeure d'anthropologie à l'INALCO qui fait étudier Dourne à ses élèves. Et donc ce qu'elle dit, elle, c'est que Dourne a complètement conceptualisé cette notion de civilisation du végétal, on en parlait à l'instant, c'est-à-dire des civilisations qui, à l'opposé de nos civilisations à nous, qui ont utilisé beaucoup le métal, là c'est des civilisations qui se nourrissent du végétal pour tout faire en fait, et aussi pour leurs rituels religieux. Donc ça, c'est Dourne qui l'a compris, un des premiers. Et puis, il comprend aussi qu'il reprend la notion d'animisme pour en faire une notion qui est aujourd'hui très importante en anthropologie, qui est ressortie depuis 15 ans, et pour expliquer que tout ce qui environne l'homme est aussi vu comme un sujet doté d'intentionnalité, que l'homme considère dans ses sociétés tout ce qui l'entoure comme animé.
Alors très rapidement, hein, toute cette vie nous est connue grâce aux sources donc, qui nous sont parvenues du père Dourne. En quelques mots, vraiment, comment votre institut a travaillé pour mettre ça en ordre? C'est rendre ça intelligible. Comment ça se passe?
Bah oui, en fait, Dourne est mort en bonne entente avec les missions étrangères de Paris, donc avait légué tous ses documents, son fonds d'archives aux missions étrangères, mais ça n'avait jamais été traité parce que c'était encore un peu trop récent. Et donc là, cette année, on a classé l'ensemble de ce fonds qui représente quand même 7 mètres linéaires, donc c'est quelque chose de très important. Enfin, pour un seul homme, c'est ça, toute sa production intellectuelle. Nous en avons dressé un inventaire pour qu'il puisse être accessible aux chercheurs. Il est en ligne sur notre site irfa.paris. Nous avons aussi classé et numérisé tous ces enregistrements, donc toutes ces bobines et cassettes qu'il nous a laissées, ces photographies. Et puis là, on aimerait beaucoup travailler sur les carnets. Ce sont ces carnets autobiographiques pour éventuellement les faire publier ensuite.
Donc un travail considérable. Merci Marie-Alpé Dumoulin, donc directrice de l'Institut de Recherche France-Asie des Missions étrangères de Paris, de nous avoir présenté les méthodes donc, de votre institut et cette vie missionnaire et scientifique du père Jacques Dourne. Je rappelle à nos auditeurs la possibilité d'approfondir cette double découverte sur le site internet de l'IRFA en tapant simplement IRFA Missions étrangères de Paris sur Google. Vous trouverez sans difficulté. Au revoir, Marie-Alpé Dumoulin.
Merci beaucoup, Duart.
Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour poursuivre l'aventure d'Orient Extrême.